Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Préparez-vous votre retraite éternelle ». Il y a des gens qui font un effort incroyable pour se préparer une retraite pour la fin de leur vie. Aujourd'hui, avec la disponibilité qu'on a dans les pays industrialisés, on a des plans de retraite. Les gens se ramassent de l'argent, ils travaillent beaucoup pour pouvoir accumuler des biens, puis accumuler aussi un montant d'argent pour leur retraite parce qu'ils veulent garder leur train de vie. Puis ils travaillent fort, puis ils mettent de l'argent de côté, ils font des placements, puis ils font des efforts. Puis des fois, ils sont obligés de travailler deux emplois en même temps pour réussir à rejoindre, pour ramasser de l'argent pour leur fonds de retraite. Le fonds de retraite, c'est sûr, quand on va arriver à l'âge de 65 ans, 67 ans ici au Québec, les gens, faut qu'ils aient préparé un fonds de retraite parce que le fonds de retraite fourni par la société, il est pas garanti à 100%. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Financièrement, ça va pas bien. Puis les gens doivent préparer, s'ils veulent un revenu rendu à l'âge de 65 ans, un revenu un peu plus élevé que le fonds de retraite du gouvernement. Ils doivent travailler fort pour y arriver. Puis il y a des gens vraiment qui prennent ces choses-là au sérieux, puis ils travaillent, puis ils travaillent, puis ils ramassent l'argent. Puis c'est sûr qu'on travaille beaucoup pour notre vie terrestre, pour les plaisirs, les loisirs, puis nos activités, parce que ça a une grande place dans notre vie. Puis aussi notre fonds de retraite, il y a une place dans la vie de beaucoup de personnes parce qu'on se dit, ben il nous reste, on a juste une vie à vivre, puis si on vit 15 ans, 20 ans de retraite, mais ils veulent s'assurer qu'ils ont une retraite bien fondée, bien établie. Mais la Bible nous parle d'une vie après la mort. La Bible nous parle qu'il y a une continuité de vie après cette vie. Puis, si on voit ça dans Jean 5, le verset 28, que Jésus nous dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix puis en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » La Bible nous déclare, dans ce passage, mais pas juste dans ce passage-là, mais dans ce passage-là, que tous vont sortir du tombeau. Ça dit au verset, tous ceux qui vivent dans les sépulcres, tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous ceux qui sont enterrés, entendront sa voix et vont sortir. Dieu a déjà prévu qu'à la fin des temps, à l'heure donnée par Dieu le Père lui-même, les gens vont ressusciter pour comparaître devant Dieu. Il n'y a pas une seule personne humaine descendants d'Adam et Ève, qui ne ressuscitera pas. Tous vont ressusciter, qu'on y croit, qu'on y croit pas. Tous vont avoir à ressusciter et à comparaître devant Dieu pour rendre compte de ce qu'on a fait dans notre vie. Puis, si on regarde dans la société, dans la manière qu'on vit, ceux qui sont rares les personnes qui partent en voyage puis se préparent pas avant de partir. Tous ceux qui se préparent un voyage dans le sud l'hiver, ils ont des longs. Premièrement, il faut qu'ils réservent le billet d'avion, réservent le motel, puis ils ont des gens qui sont payés pour pouvoir s'occuper de ces choses-là. Puis il faut qu'ils prévoient le moyen de transport pour aller à l'aéroport. Faut qu'ils préparent tout le linge, les effets personnels qu'ils vont avoir besoin pendant leur voyage. Puis ils prennent des assurances, il y a toutes sortes de préparatifs, même aussi aller prendre des vaccins, puis aller prendre toutes sortes de préparatifs pour nous préparer à partir en voyage. Parce qu'on veut pas se retrouver rendu là-bas, en voyage, puis se retrouver qu'il nous manque des choses, ou se retrouver qu'on n'a pas préparé telle et telle chose, puis que ça pourrait avoir des conséquences désastreuses. Mais la Bible nous dit dans Amos 4:12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Dieu est en train de nous dire qu'on a à se préparer pour sa rencontre. Je vous ai dit tantôt que tous vont ressusciter, tous vont entendre sa voix, tous vont se ressusciter, tous vont être rendus comme vivant dans l'autre dimension, dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu, dans la vie éternelle, qui est plus, fait plus partie de cette vie terrestre. C'est une vie complètement à part. On va débuter un voyage sans fin, un voyage éternel sans fin, avec Dieu et avec les gens qui nous entourent. Mais aussi bizarre que ça paraît, si on est capable de se préparer pour partir en voyage quand on va dans le sud, comment peut-on prendre à la légère un voyage de non-retour aussi long? Quand on pense qu'on va rentrer dans l'éternité, puis qu'on va vivre une vie sans fin. La mort, c'est un très long voyage. Mais quels sont les préparatifs pour ce genre de voyage? Est-ce qu'il y a des choses que je dois me préparer d'avance avant d'entrer dans la vie éternelle, avant de mourir? Parce que c'est un voyage de non-retour. Une fois qu'on est mort, on peut pas revenir en arrière puis dire « Ah, ben là, j'ai oublié de préparer ça, faut que j'y aille préparer ça. » Trop tard. Une fois qu'on est mort, on ne revient pas dans notre corps. On reste dans un lieu d'attente, on attend la résurrection, puis on va passer devant Dieu, chacun à notre tour. Puis il faut réaliser que nous sommes pas automatiquement prêts à entrer au ciel. C'est pas quelque chose que par défaut, nous sommes prêts. La Bible nous dit dans Matthieu 22, le verset 14, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dieu nous appelle à entrer dans la vie éternelle. Dieu nous appelle à entrer dans son ciel, dans le paradis. Dieu nous appelle à vivre la vie sans fin avec lui dans ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Mais sommes-nous prêts à entrer dans cette vie? Sommes-nous prêts à ce que Dieu nous a demandé de se préparer dans sa parole, ce qui va nous amener à être reçus et bien reçus et bien préparé pour être au bon endroit. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont une fausse espérance des choses à venir? Ils croient en des choses qui n'est pas biblique. Ils croient en des choses qui se sont forgées eux-mêmes dans leur pensée, ou ils croient dans des choses qu'ils ont entendues dans telle et telle religion, puis qu'aux yeux de Dieu, ça se produira pas comme ça. Il y a des gens qui ont une fausse espérance à cause des enseignements erronés de leur religion. Même au temps de Jésus, c'était comme ça. Dans Marc 12, verset 18, je veux vous faire peser sur des points bien précis. On va lire ce petit passage-là, puis on vous revient avec cela. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vois-tu, il y en a qui se sont fait une idée, ils se disent qu'il n'y en a pas de résurrection. Pourtant, Dieu dit dans sa parole qu'il va ressusciter tout le monde. Ils vinrent auprès de Jésus puis ils lui firent cette question. Maître, là, ils veulent lui poser une question face au passage de l'Ancien Testament. Voici ce que Moïse nous a prescrit. Il dit, si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria, il mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme, puis mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux serait-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Puis là, on voit que les gens ne croyaient pas à la résurrection, mais étaient en train de dire, « Ouais, mais dans la Bible, c'est écrit qu'on quand qu'on meurt, puis qu'on n'a pas laissé d'enfant, que notre frère pouvait marier notre femme, puis nous laisser une postérité. » Puis là, ils voulaient comme tenter Jésus pour voir c'est quoi sa réponse. Puis là, ils se disent, « À la résurrection, elle va être la femme de qui? Des 7 l'ont eu pour femme. » Jésus a répondu, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Ouch! Des gens qui croient pas en la Bible sont arrivés en disant, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver après la résurrection? Puis là, Jésus, il a pas mâché ses mots pour leur répondre. Il dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'erreur, qui ont des fausses espérances à cause des fausses enseignements, parce qu'ils ne croient pas à ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est claire, la Bible parle qu'il va y avoir une résurrection. Ces gens-là arrivent et ils essayent de ridiculiser le concept de la résurrection en disant que qui va avoir la femme à la résurrection. Puis là, Jésus leur a dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Vous comprenez pas les Écritures, puis la puissance de Dieu. Puis là, il leur a expliqué que à la résurrection, les hommes se marieront pas. Chacun va rester individuel devant Dieu. Il y aura plus de mariage. On va être comme les anges dans le ciel. Mais il a dit aussi que Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Puis on voit dans ce passage-là que Jésus voulait dire aux Sadducéens, vous pensez que vous allez ressusciter puis rentrer au ciel puis pouvoir vivre avec tout le monde comme si rien n'était, mais à cause que vous êtes dans l'erreur puis que vous comprenez pas les Écritures, à cause vous n'avez pas mis votre vie en règle avec Dieu, Dieu n'est pas votre Dieu, puis vous n'irez pas dans la vie éternelle avec ce Dieu-là. Il y a des gens qui croient pas en résurrection, puis il y en a d'autres qui croient, mais croient pas aux bonnes choses. Je crois qu'il est essentiel que pour chaque être humain sur la terre, qu'il y a à lire la Bible afin de connaître les écrits. Parce qu'il est important de lire les écrits, d'y comprendre, puis d'y vivre, afin d'hériter ce que Dieu nous dit dans sa parole. La question que je vous pose aujourd'hui, êtes-vous sûr d'être sauvé? Avez-vous l'assurance du salut? Avez-vous reçu sa paix? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh ben, tous les gens vont aller au ciel, tout le monde va aller au ciel, Dieu y est bon, puis Dieu y est tellement bon qu'il va sauver tout le monde. Mais ça marche pas réellement comme ça. C'est pas à cause que Dieu est bon qu'il va sauver tout le monde. C'est vrai que Dieu est bon. Mais Dieu a établi un plan dans la Bible, un plan précis pour être sauvé. Il y a des étapes que nous devons passer afin d'être prêtes, d'avoir l'assurance du salut. J'appellerais pas ça juste des étapes, j'appellerais ça une préparation. C'est ce qu'on est en train de dire un peu plus haut, on partira pas en voyage sans se préparer. Mais Dieu nous a donné des choses à se préparer avant d'entrer dans l'éternité. Sinon, nous allons mourir dans nos péchés, puis nous ne pourrons pas entrer à cause de nos péchés. Si je vous repose la question, êtes-vous sûr d'être sauvé? Avez-vous l'assurance du salut? Avez-vous reçu sa paix? Mais la réponse à cette question-là, vous allez avoir votre réponse dans cette parole. Que faites-vous de Jésus-Christ? Dans Matthieu 8, 35, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, « Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. » La vraie question pour être sûr si nous sommes sauvés, c'est que faites-vous de Jésus-Christ? Jésus nous a dit que si tu veux conserver ta vie, si tu veux vivre ta vie présente pour toi-même seulement, tu vas la perdre. Puis il nous a dit aussi que celui qui perdra sa vie à cause de Jésus, puis de la bonne nouvelle, la sauvera. La Bible est claire. Il y a un seul chemin pour entrer dans la vie éternelle, puis ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Jésus nous fait un appel en nous disant, renonce à ta vie, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Jésus est le sauveur de ce monde. Jésus nous propose l'accès à entrer dans la vie éternelle. Il nous propose de nous préparer. Il dit, pour que tu puisses la sauver, ta vie, faut que tu sois prête à la perdre à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Le salut est offert gratuitement en Jésus, parce que Jésus a payé pour la dette de nos péchés. Puis là, il nous dit, à quoi ça va te servir de vivre ta vie terrestre puis de gagner tout le monde? Tu peux te préparer une très bonne retraite, mais est-ce que t'as préparé ta retraite éternelle? Il dit, à quoi ça sert à quelqu'un de gagner tout le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'on peut donner en échange de notre âme? Notre âme, c'est notre vie. C'est de vivre dans la vie présente. On est présent, nous sommes là, nous pouvons profiter de cette vie. Mais dans la vie éternelle, notre âme a besoin d'être sauvée. Notre âme a besoin d'un salut. À cause de nos péchés, notre âme est empêchée d'entrer dans le paradis, dans le ciel. Puis la Bible nous dit, c'est bien beau de courir, puis de gagner tout l'univers, puis gagner tout le monde, puis gagner des richesses, puis des biens pour ta vie, pour ton temps terrestre. Mais à quoi ça sert de gagner tout, de travailler pour tout ça, si tu perds toi-même, si tu perds ton âme? Puis là, il nous met encore en face à la question, avons-nous honte de Jésus et de ses paroles? Jésus dit, si on a honte de lui puis de ses paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, mais le Fils de l'homme aussi va avoir honte de nous. Fait que celui qui nous ouvre la porte dans le ciel, c'est Jésus. Quand on va arriver devant lui, est-ce qu'il aura honte de nous? Il va nous traiter de la même façon qu'on l'aura traité. Quand j'ai posé la question, êtes-vous sûr d'être sauvé? Avez-vous l'assurance du salut? Puis l'autre question qui est semblable, que faites-vous de Jésus-Christ? Parce que c'est grâce à lui qu'on peut être sauvé. Dieu le Père a déjà tout accompli afin qu'on puisse faire la paix avec lui. La Bible elle dit que nous sommes tous dans nos péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu qu'on voit dans la parole de Dieu. Dieu il a déjà pourvu à ce qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Dans Colossiens 1:20, ça nous dit, il a voulu par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu le Père a déjà pourvu à ce qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Comme préparatif, tout être humain a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Nous sommes tous morts spirituellement en Adam. Depuis Adam, l'ensemble de l'humanité est morte spirituellement. Puis on a besoin d'être réconcilié avec Dieu le Père. On a besoin de passer par le sang de la croix de Jésus. Quand Jésus était sur la croix, il a versé son sang, puis il est devenu comme une victime pour payer pour la dette de nos péchés. Il a accepté de payer la mort à notre place. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Dieu a déjà accompli tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, pour nous donner le pardon de nos péchés, puis qu'il n'y a rien qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Dans Romains 5:1, ça nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'assurance du salut, pour être sûr que nous sommes vraiment sauvés, pour avoir cette conviction intérieure, pour goûter la paix de Dieu que Dieu veut nous donner, c'est une paix surnaturelle, c'est une paix qui vient du Saint-Esprit qui est déposé dans nos cœurs pour nous donner comme une confiance que nous faisons partie de la famille de Dieu. Ça nous donne comme une assurance qu'on est pardonné à cause de l'œuvre du sang de Jésus qui était versé à la croix. À cause de l'œuvre de Jésus, on peut faire la paix avec Dieu et recevoir sa paix. Tout ça, ça s'obtient par la foi. Si tu y crois, puis tu t'engages, parce que la foi, c'est plus que croire. La foi, c'est une démonstration de ce que tu crois. C'est que tu vas le mettre en pratique. C'est que tu vas donner ta vie au Seigneur, tu vas renoncer à toi-même, tu vas prendre ta croix, puis tu vas le suivre. tu vas renoncer à ta vie, tu vas perdre ta vie à cause de Jésus puis de la bonne nouvelle. Tu vas vouloir devenir son disciple à cause qu'il t'offre ce pardon, puis là tu vas l'aimer en retour, puis tu vas lui donner ta vie, puis tu vas marcher jusqu'à la fin de ta vie dans cette foi qui va t'amener à avoir une assurance intérieure pour te dire « Je suis un pardonné, je suis déjà préparé parce que j'ai accepté Jésus puis je me suis engagé à le suivre et à le servir. » Puis là ensuite, une fois que tu as reçu ce cadeau-là par la foi, que tu as reçu le cadeau de la vie éternelle, là tu vas te préparer, tu vas préparer ta retraite céleste en te ramassant des trésors dans les cieux, des trésors dans les lieux célestes. Parce qu'il n'y a pas juste les trésors terrestres. C'est bien beau de ramasser une retraite pour le 10, 15, 20 ans qu'on a à vivre sur cette terre après notre retraite. Mais c'est encore bien plus important de préparer notre retraite éternelle, préparer le temps qu'on va vivre dans le ciel. Notre préparation commence par pouvoir entrer. Premièrement, il fallait passer par Jésus, croire en son pardon, puis de l'accepter, puis de s'engager à le suivre, à le servir. Là, ça t'assure de faire partie de ceux qui vont vivre éternellement. Mais préparer sa retraite, c'est encore beaucoup plus que ça. Ta retraite éternelle, c'est que tu as la grâce, par la volonté de Dieu, de te ramasser des récompenses éternelles. Tu vas te ramasser une richesse dans les cieux qui va t'attendre que lorsque tu vas arriver l'autre bord, non seulement tu vas avoir entré à cause de l'œuvre de Jésus, mais en plus de tout ça, tu vas t'avoir ramassé des richesses que tu vas pouvoir profiter éternellement dans ce fonds de pension éternel-là. Ça nous dit dans Matthieu 6, le verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où ce que la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ça nous invite, Dieu nous invite, c'est Jésus qui parle, Dieu nous invite à s'amasser des trésors dans les cieux. Notre vision doit pas juste être focussée sur les biens terrestres, puis notre bien-être terrestre, puis notre pension terrestre. Nos regards doivent être fixés dans notre pension éternelle. Premièrement, en se préparant et en passant par Jésus pour être pardonné afin de pouvoir entrer dans la vie éternelle. Puis, secondement, mais en faisant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, nous nous accumulons un trésor dans les cieux, que lorsque nous arriverons l'autre bord, Dieu va nous remettre toutes ces bénédictions-là, puis nous allons pouvoir en profiter. La grandeur de notre trésor éternel va être en proportion de nos efforts de vivre dans l'obéissance au Seigneur, de vivre selon sa parole. Plus qu'une personne se consacre au Seigneur, plus qu'elle sert le Seigneur, mais plus qu'elle se ramasse des récompenses dans les cieux. Jusqu'à un simple verre d'eau donné à un des plus petits des frères de Jésus, Jésus a dit, tu perdras pas ta récompense. Tout est gardé dans les cieux, là, tout est gardé en mémoire. Tout ce que tu as fait de bien ou de mal, Dieu n'oubliera rien. Puis les récompenses sont pas pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Les récompenses sont pour les sauvés. Les autres, la Bible dit que, comme j'ai dit tantôt, qu'on va tous ressusciter. On va tous entendre sa voix ressusciter. Puis on va sortir des tombeaux. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, puis ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Même si tu as fait des actions qui mériteraient des récompenses dans cette vie terrestre, si tu n'as pas au préalablement préparé ton âme en recevant le pardon offert par Jésus, tu n'es pas sauvé et tu n'auras aucune récompense. C'est le jugement qui t'attend, le jugement pour tes péchés. Parce que la Bible nous dit qu'on est tous pécheurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Fait que quand on arrive l'autre bord, soit qu'on arrive dans nos péchés, puis qu'il n'y avait pas été pardonné, puis qu'on en rende compte pour nos péchés au jugement, ou on meurt pardonné, puis là, on passe devant le jugement pas pour le jugement, c'est pas le même jugement. On passe devant le trône de Christ, le tribunal de Christ, pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait. C'est pour les récompenses, c'est pour recevoir ton trésor, ce que tu as préparé sur la terre par la foi, en marchant avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur, puis en obéissant au Seigneur, bien, les récompenses t'attendent pour l'éternité. Puis c'est un trésor qui ne se détruira point, puis que personne ne va pouvoir dérober. L'autre bord, nos richesses ne se corromperont pas, ne se pourriront pas. Il n'y a pas de teigne puis de rouille. Il n'y a pas rien qui va détruire nos richesses. C'est quelque chose de durable et d'éternel. Puis Dieu nous invite à penser aux choses célestes, à s'arrêter aux choses célestes, puis à travailler en fonction du royaume et la justice. Parce que là où est notre trésor, mais là aussi va être notre cœur. Puis si notre trésor est juste dans les choses d'ici-bas, notre cœur va être là-dedans. Mais si notre trésor est dans les choses célestes, ben notre cœur va y être, puis nous allons travailler de tout notre cœur à pouvoir se ramasser des richesses éternelles. Jésus nous encourage à mettre nos efforts pour son royaume, pour ses œuvres qu'il a pour nous. Dans Jean 6, 27, ça nous dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Voyez-vous, Jésus a des œuvres, il y a des choses qu'il a préparées d'avance pour tous ceux qui l'aiment. Puis ces œuvres-là, c'est les œuvres qui proviennent de lui, des œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Mais au préalablement, notre préparation pour ce grand voyage éternel, faut passer par Jésus pour recevoir le pardon, parce que Jésus, à son sacrifice, nous assure d'être pardonné de tous nos péchés. Ensuite, nous lisons la Bible pour connaître sa volonté, puis là, son esprit va nous conduire dans les œuvres que lui a préparées d'avance pour nous, des œuvres qui nous fera accumuler un trésor éternel. Je vous repose la question du message. Préparez-vous votre retraite éternelle? Avez-vous préparé votre retraite éternelle? Avez-vous mis votre vie en règle avec Dieu? Êtes-vous prête à le rencontrer? Avez-vous fait la paix avec Jésus-Christ? Avez-vous reçu son pardon? Vous êtes-vous engagé à le suivre et à le servir tous les jours de votre vie? Lisez-vous la Bible pour connaître le chemin, connaître sa pensée, connaître sa volonté. Pratiquez-vous la vie chrétienne. Marchez-vous en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore pris, cette décision de vous engager devant Dieu, je vais faire une prière avec vous, vous invitant à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, à faire un pas de foi, puis à vous donner, c'est un pas de foi, ça va vous donner de vous engager à le suivre, à le servir pour le reste de votre vie. Faites cette prière avec moi. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je m'approche. Je reconnais que je suis un homme pécheur. Je reconnais que je mérite rien. Je reconnais que je suis perdu. Je reconnais que je ne mérite que ton jugement. Mais Seigneur, je crois que Jésus-Christ est venu, voilà 2000 ans, qu'il est mort sur la croix, qu'il a versé son sang, et que son sacrifice est pour me pardonner tous mes péchés. Je l'accepte comme mon sauveur. Je l'accepte comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir. Je veux marcher en communion avec toi tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit, prends ma vie et dirige-moi afin que je puisse me ramasser selon ton plan des richesses éternelles, préparer ma retraite éternelle auprès de toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Sache que si tu as fait cette prière, Dieu t'a entendu. Puis Dieu pardonne tes péchés. Non seulement il pardonne tes péchés, mais il te donne son Esprit Saint. Puis son Esprit Saint veut te conduire. Lorsque tu liras la Bible, il va te révéler sa pensée, puis tu vas pouvoir obéir. Je t'encourage à aller dans une église évangélique pour aller entendre des enseignements bibliques, aller entendre les paroles de révélation de la parole de Dieu, puis aussi aller fraterniser avec des frères et sœurs qui ont pris le même engagement que toi d'accepter Jésus, puis de le suivre et de le servir. Puis je t'encourage aussi à aller sur mon site publication-evangelique.com où ce que tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.